Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors poursuivons notre enquête sur la formation au notariat. Alors, la semaine dernière, je vous avais donné des exemples qui témoignent de l'apprentissage de la maîtrise des styles d'écriture. Mais nos apprentis notaires ne doivent pas simplement savoir écrire dans le style approprié, mais ils doivent évidemment avant tout avoir une bonne connaissance des formulaires en vigueur pour les divers types de transactions. Alors, l'assimilation du formulaire devait passer par deux méthodes qui n'est pas toujours facile aujourd'hui de distinguer. La copie de modèle et la composition d'actes fictifs. Alors, la première aide dans un premier temps à se familiariser avec les divers formulaires et la seconde permettait dans un second temps d'acquérir une certaine autonomie rédactionnelle. Comment parvenir à attribuer tel exercice à telle méthode ? Alors, c'est presque impossible sans la présence de grosses erreurs rédactionnelles qui incitent à conclure à une composition personnelle de l'apprenti où il aurait évidemment failli, plutôt qu'à une simple copie. Alors la frontière entre les deux a beau être malaisée à tracer, je vais tenter de classer le matériel disponible dans l'une ou l'autre catégorie. Mais je dois reconnaître, je suis bien conscient du caractère quelque peu aléatoire de cet exercice. Alors, il y a heureusement des cas où aucun doute n'est permis. C'est l'exemple de cette tablette où le même contrat de vente a été recopié deux fois sur deux tablettes contiguës du même codex. Bon. Alors, voici un autre exemple que je crois indubitable et qui, en plus, a l'intérêt d'être encore inédit. J'essaye toujours de vous montrer des textes nouveaux. Un texte inédit et qui forme un ensemble tout à fait exceptionnel dans le domaine des documents d'apprentissage au notariat. Alors, il s'agit d'un codex de tablettes de la British Library, dont l'édition est en cours par Todd Hickey, Valérie Schramm, Yasmine Amori et moi-même. Alors, ce codex est constitué de 10 tablettes. Là, vous voyez un essai où nous sommes en train d'essayer de reconstituer la séquence de ces tablettes. Donc, 10 tablettes en bois qui, à l'exception des deux faces externes, présentent, vous le voyez ici, présentent une surface à écrire qui est revêtue d'un enduit blanc et qui est encadrée par une bordure rectangulaire qui est plus épaisse. Ce codex contenait 16 documents écrits en grec qui appartiennent aux genres documentaires les plus attestés. Alors, outre une pétition, ce sont tous des actes juridiques, des locations de terrain, des locations de bâtiments, en l'occurrence une huilerie, des ventes à terme de blé, de vin, des prêts d'argent, un cautionnement. Voilà. Alors, ces actes ont tous Panopolis comme lieu de rédaction. Vous voyez où se trouve Panopolis, en Thébaïde. Tous ces actes donc, ont Panopolis comme lieu de rédaction, ce qui assure évidemment la provenance panopolitaine de ce codex de tablettes. L'un de ces actes, qui contient une formule de serment par l'empereur Zénon, qui a régné entre 474 et 491, permet de dater la copie de ces textes de la fin du 5e siècle. À l'exception de comptabilité, dont je ne vous parle pas sur la dernière tablette, les documents sont tous de la même main. Alors, outre le support, on retrouve plusieurs des indices qui caractérisent les exercices d'initiation au notariat. Les noms des parties ont été systématiquement remplacés par Tistinos ou Ode Tude, c'est-à-dire un tel, fils d'un tel. Alors, je vous donne un exemple avec le premier document du codex, qui est un contrat de location et qui commence par le prescrit habituel, sauf que les noms étaient anonymisés. Donc, Aurelius, un tel, fils d'un tel, sénateur, originaire de Panopolis, de la part d'Aurelius, un tel, fils d'un tel, agriculteur, originaire de Panopolis. Et suit ensuite l'acte proprement dit. Par ailleurs, on retrouve un nombre anormalement élevé de fautes d'orthographe et de lapsus calami. Mais tout cela n'assure pas qu'il s'agisse d'un exercice de copie. Cette hypothèse est néanmoins la plus plausible si on en juge par l'écriture. Contrairement à beaucoup des exercices dont l'écriture, on l'a vu, manifeste une certaine aisance, eh bien, celle-ci est une écriture bilinéaire, informelle, irrégulière, peu ligaturée, d'une extrême maladresse, hein, et qui correspondrait, si je suis la typologie de Raffaella Cribiore, hein, des mains scolaires, qui correspondait à ce qu'elle appelle les mains alphabétiques, une maladresse telle que, qu'on n'attend pas chez quelqu'un qui se forme au métier de notaire et dont on attend qu'il ait une bonne maîtrise, évidemment, de l'écriture. Et puis, s'ajoute à cela aussi la méconnaissance des règles de coupe de mots en fin de ligne. Vous voyez que les mots sont coupés absolument n'importe comment. Il est par conséquent peu plausible que notre apprenti ait été capable de composer lui-même des actes qu'il a écrits tant bien que mal, et plutôt mal que bien. Alors, exercice de copie donc, mais selon quel procédé, selon quelle méthode ? La question qui se pose en effet est de savoir si ces textes ont été écrits sous la dictée à partir d'un modèle écrit ou bien même d'après des modèles que l'élève aurait appris par cœur. Cette question se pose pour beaucoup de nos exercices et il est toujours malaisé de trancher. Le type de faute peut-être aider. Alors regardons dans le cas présent les fautes que l'on trouve. Eh bien, on relève des confusions qui sont purement graphique. Par exemple, ici, vous avez une confusion due entre le gamma et le tau, hein, qui peuvent effectivement être très proches en grec. Ici, vous avez zuto pour zugo. Ici, vous avez homoloto pour homologo. Ici, vous avez eto pour ego. On trouve aussi des confusions entre ou et a. Vous voyez que si je trace un omicron et un upsilon, ça peut ressembler à un alpha, et on a une formule ou cesse, n'étant pas, qui est systématiquement, qui revient à plusieurs reprises dans le codex, et qui est systématiquement orthographiée ac ou cesse. On trouve aussi une confusion entre le alpha et le delta, hein, qui se ressemblent. Ici, on a akuru, qui est orthographié dkuru. Kuru. De même, une confusion entre oméga et alpha résultant d'une mauvaise lecture d'un oméga qui était probablement mal fermé dans sa partie finale et qui a été interprété comme un alpha. Alors on pourrait multiplier la liste des confusions. Je voudrais juste signaler une erreur récurrente qui est due à une mélecture. Notre apprenti bute constamment sur ce qu'on appelle la clause stipulatoire qui valide le document à la fin, hein, qui en grec c'est kai epirotetes homologesa, et en réponse à la question rituelle, c'est-à-dire la question posée par la partie créancière, eh bien j'ai marqué mon accord. Donc cette phrase est systématique dans les contrats, et notre apprenti a des problèmes. Alors voici à l'écran une des façons dont il orthographie cette clause. Voyez, il écrit « epertis homoloquesa » avec un omicron à la place d'un oméga. Et cela peut s'expliquer si l'on considère que le modèle devait avoir quelque chose comme cela, c'est-à-dire une forme abrégée avec un θ légèrement en hauteur et une barre d'abréviation, et puis ensuite le oméga d'homoloquesa, et il aurait interprété la barre d'abréviation comme un iota et le début de l'oméga comme un sigma, ce qui nous donne ce qu'il a écrit. Il fait beaucoup d'autres fautes sur la même clause stipulatoire. Alors, vous voyez, toutes ces fautes donnent à penser que les modèles utilisés étaient rédigés dans une écriture cursive que notre apprenti n'a pas toujours su interpréter. Or, on constate aussi de nombreux phonétismes qui iraient dans le sens d'une copie faite sous la dictée. Et vous le voyez ici avec cet exemple, l'exemple précédent, où on a homolo kessa à la place d'homolo gessa, avec une confusion entre la sourde et la sonore, et là c'est plutôt une faute faite à l'oreille. Cependant, outre le fait que les modèles pouvaient contenir des phonétismes, l'iotacisme, la confusion entre alpha, entre oméga et omicron sont des fautes très fréquentes qu'on trouve dans de vrais contrats professionnels, eh bien, il ne faut pas oublier un phénomène propre à la copie. Entre le moment où le copiste lit une série de mots sur un modèle et celui où il l'a retranscrit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se la répète mentalement. Opération qui est d'autant plus nécessaire que, à cette époque, les mots ne sont pas séparés par des espaces et ne prennent sens en fait que par une sorte de lecture intérieure. Or, c'est cette opération qui peut générer des erreurs de nature phonétique. Sans compter d'ailleurs qu'il n'est pas exclu que le modèle écrit ait pu être lu parallèlement à haute voix par le maître, ce qui pourrait expliquer également le mélange de fautes à la fois graphiques et phonétiques. Quoi qu'il en soit, notre codex offre pour l'instant l'exemple le plus étendu d'exercice de copie de textes juridiques. On notera au passage que ces textes n'ont pas été choisis par le maître au hasard. On constate non seulement que le nombre des documents par genre reflète leur fréquence dans la documentation de l'époque, mais aussi que les modèles ont été choisis à l'intérieur de chaque genre pour illustrer la variété des situations du point de vue à la fois de la transaction et de ce qu'on appelle techniquement la diplomatique, c'est-à-dire la forme de l'acte lui-même. Ainsi, les locations concernent des terrains, mais aussi des bâtiments, on l'a vu avec une huilerie, les prêts de sommes à rembourser sont tantôt en nature, tantôt en argent, les ventes à terme concernent des quantités de blé ou de vin qui sont à fournir à un terme soit fixé à l'avance, soit laissé à la discrétion du prêteur. Les documents relevant d'un même genre sont rédigés selon deux formes, tantôt la forme épistolaire, c'est-à-dire un tel à un tel salut, c'est un des deux types de prescrits que l'on trouve pour les actes juridiques à cette époque, ou bien selon la forme hypomnématique, c'est-à-dire à un tel de la part d'un tel. En bref, cet échantillon de documents permettrait à un apprenti de faire face à la plupart des situations qu'un notaire ordinaire était susceptible de rencontrer. Alors, à un certain moment, l'élève ne se contente pas de recopier des documents écrits par d'autres, il doit en rédiger lui-même. Je l'ai dit, ces exercices de composition sont difficiles à repérer et ne peuvent être détectés a priori que s'ils sont déparés par des erreurs de syntaxe ou mieux, des erreurs de formulaire qu'on ne s'attend pas à trouver dans les modèles. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter quelques-uns de ces documents qui présentent des erreurs de formulaire. J'en citerai un, c'est cette tablette qui contient des parties de trois contrats, une location, une vente, une reconnaissance de dette, que je pense être un essai rédigé par un apprenti notaire. Entre autres fautes, eh bien, on relève une erreur de nature diplomatique. À la ligne 2, voyez qu'il commence ici à la troisième personne. Il l'a mis à bail sous forme, pour la seule année, les deux arours, ce sont des unités de superficie, deux arours qui m'appartiennent. Et là, on passe ensuite à la première personne du singulier. Donc, il mélange ce qu'on appelle le style objectif, il a mis à bail, et le style subjectif, j'ai j'ai donné mon accord, je reconnais, etc. Style subjectif qui était plutôt de mise à l'époque pour ce type de contrat. Une telle erreur me paraît assez invraisemblable, disons, dans un modèle. Et donc, je crois qu'il s'agit vraiment d'un exercice de composition d'un notaire en herbe qui ne maîtrise pas encore complètement toutes les formes de rédaction. Alors, je voudrais vous présenter un texte encore inédit qui, selon moi, pourrait être une composition. Alors, il s'agit d'une tablette de très grande dimension, vous voyez, 54 cm sur 29, conservée au musée égyptien du Caire, qui vient de Carrara. J'ai déjà eu l'occasion de citer ce toponyme au sujet des exercices des apprentis intendants du domaine des Appions, et qui comporte sur une face le texte complet d'une anticatalogue. Alors, une anticatalogue, c'est un acte de permutation de propriété. C'est-à-dire que deux personnes se rencontrent et décident d'échanger leurs propriétés, souvent pour des raisons de proximité, ça permet de rapprocher un champ d'un autre qu'on possède, etc. Et donc, il s'agit d'un acte de propriété de 18 lignes qui est écrit dans une permutation de propriété de 18 lignes qui est écrit dans une cursive témoignant d'une bonne maîtrise de l'écriture. Alors, on pourrait être tenté d'y voir un exercice de copie d'après des fautes résultant d'une mauvaise interprétation d'une lettre qui aurait été mal recopiée. On va retrouver un petit peu les mêmes erreurs que dans la tablette que je vous ai montrée précédemment. Par exemple, ici, erreur de confusion entre un delta et un alpha. Là, vous avez le mot « indiction ind » qui est écrit « ina ». Ici, ça ne se voit pas bien, mais on attend le mot « guess », la terre, et en fait, on a « tes », donc confusion entre gamma et tau. Et ici, vous avez le mot « comes », qui est écrit « coles », on voit bien les deux lambda, et qui résulte d'une mélecture d'un mu en deux lambda. D'autres erreurs incitent à y voir une composition qu'un apprenti notaire, encore peu aguerri, aurait réalisée. Alors, outre des erreurs de syntaxe, on trouve une création verbale plutôt suspecte, mot qui n'existe pas, et on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une erreur de la part du rédacteur. Mais surtout, on y trouve des fautes de formulaire. Je les ai listées ici. Et notamment, parmi ces fautes, il utilise le terme « priamenu » pour désigner une des parties, acheteur, alors qu'il ne s'agit pas d'une vente. Il s'agit juste d'un échange. Donc, là encore, tout cela fait pencher la balance du côté d'une composition plutôt que d'une copie. Alors, il arrive quelquefois que le texte soit tellement inintelligible qu'on peut suspecter, à juste titre, la composition d'un apprenti qui a brûlé les étapes et qui n'est pas vraiment doué. C'est le cas de cette tablette, pourtant bien écrite, hein, vous le voyez, l'écriture est assez élégante, tablette du Vatican, mais les éditeurs commencent l'édition en signalant qu'il est quasiment impossible de comprendre ce qui est écrit. Voilà. Donc, et il renonce d'ailleurs à traduire le texte. Alors, par ailleurs, de plus en plus à partir du début du 7e siècle, et surtout de la conquête arabo-musulmane de 641-642, qui rompt le lien entre l'Égypte et l'Empire romain d'Orient, d'expression grecque, eh bien, les notaires doivent faire preuve de versatilité linguistique. Si certains se spécialisent dans telle ou telle langue, le grec ou le copte, eh bien beaucoup pratiquent à la fois le grec et le copte. D'autant que le formulaire des actes en copte est truffé d'expressions grecques et suit pour une part celui des actes grecs. Alors nos notaires en herbe se doivent non seulement de naviguer entre les deux langues, mais aussi, dans certains cas, de s'initier à la rédaction d'actes, aussi bien en grec qu'en copte. Et je voudrais vous présenter une pièce, là encore inédite, qui illustre cet aspect de leur apprentissage. Il s'agit d'une tablette conservée au Muséum für Mensch und Natur de Fribourg, en Brisgau, de provenance, semble-t-il, inconnue. Là encore, il s'agit d'une tablette de grande dimension, hein, 48 cm de large. L'écriture date du 7e siècle. Et la face que nous appellerons A contient trois textes. Une reconnaissance de dette en cinq lignes, écrite dans une cursive quadrilinéaire droite, proche de la minuscule, qui, sans être parfaite, atteste une certaine expérience. Le contenu du document est banal, hein. Un certain Aurelius Epimachei, fils du défunt Pierre, originaire d'un village appelé Hieras, du nom Sinopolite, supérieur, empreinte à un certain Sévère, 9 sous d'or et demi. Alors, ici, entre les lignes 1 et 2, vous remarquerez un dessin d'une figure humaine, hein, tracé, on voit le visage avec les yeux, le nez, hein, tracé de façon horizontale, qui montre que notre apprenti n'était pas toujours, on va dire, des plus attentifs à ce qu'il faisait. Directement enchaîné au texte précédent, eh bien, la même main a commencé à élaborer une version copte du même document, mais s'est arrêtée en plein milieu. Hein. Au nom de Dieu, avant toute chose, c'est moi, Epimachei, fils du bienheureux Pierre, l'homme de, et là il a oublié le nom du village, dans le nom de Coïs, donc, et il s'est arrêté. Bon. Et puis enfin, une autre main a ensuite rédigé une invocation chrétienne en grec, du type de celle que l'on trouve au début des actes notariés, mais dans une version plus longue que celle qu'on trouve habituellement, hein, au nom de la Sainte Trinité, sainte et consubstantielle, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de notre maîtresse et très glorieuse Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, du très saint précurseur, prophète, martyr et baptiste, Appa Jean, de tout le cœur des saints martyrs, de l'apôtre et martyr, et là, il s'est arrêté. Et suit ensuite une date. Bon. Alors, si je mets de côté le troisième texte, qui est d'une main différente, eh bien, nous voyons qu'une même personne a copié, a plutôt s'est exercé en grec et en copte. Alors, on retrouve le même mélange de langues dans d'autres tablettes. Hein, j'avais déjà eu l'occasion de mentionner la tablette que vous avez à l'écran dans un cours précédent, qui contient sur une face une vente à terme, en grec, et sur l'autre, la fin d'un document juridique en copte. C'est également le cas de cette tablette du Vatican, du 7e siècle, une tablette qui livre sur une face un contrat de vente à terme de semences à fourrage, en grec, et dans un grec catastrophique lui aussi, aussi catastrophique d'ailleurs que l'écriture est aisée, et sur l'autre, un contrat de vente à terme de vin en copte, dans une écriture tout aussi aisée, mais différente par sa bilinéarité, alors que le grec est quadrilinéaire. Alors, a-t-on affaire, dans les deux cas, à la même personne, puisqu'il s'agit de langues et d'écritures différentes, eh bien, il est tout à fait vraisemblable que ça soit la même personne qui ait écrit les deux textes, puisque le copte adopte à cette époque un style d'écriture bilinéaire, contrairement aux Grecs qui cultivent la quadrilinéarité. Alors évidemment, il est difficile de savoir si derrière des textes écrits dans des écritures conventionnellement différentes, on a affaire à la même personne. Mais si nous comparons la séquence grecque de totalisation, vous savez, dans les actes, quand une somme est citée, en toutes lettres, à un moment, il y a une formule de récapitulation, total, temps, écrit en chiffres et non pas en lettres. Eh bien là, en règle générale, ces totalisations, sont même dans les textes copes, sont écrits en grec. Eh bien là, vous voyez, total, temps de sous d'or, Eh bien, cette séquence se retrouve aussi dans le texte grec et vous voyez qu'elle est, tracée de la même façon. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agisse de la même personne qui est écrite d'un côté en grec et de l'autre en copte. Et donc, voyez, à travers ces exemples que je vous ai montrés, on saisit hein, sur le vif hein, les entraînements, les tâtonnements, les erreurs par de nos scribes qui sont en train de s'exercer à la rédaction, plus simplement à la copie d'actes juridiques. Alors, je voudrais finir en revenant à mon point de départ, celui plus ou moins par lequel j'ai commencé les cours de cette année. La difficulté à distinguer les exercices produits dans le cadre de l'école classique, hein, c'est-à-dire l'école avec le grammatiste, le grammaticos, le grammairien, et éventuellement même le sophiste, mais enfin, surtout, on va dire, les exercices produits sous la férule du grammatiste, qui apprend à lire et à écrire, d'un côté, et ceux relevant d'une formation professionnalisante. Alors, si cette difficulté peut être due dans nombre de cas à une erreur d'analyse du papyrologue moderne, dans bien d'autres, cependant, eh bien, elle tire son origine de causes plus profondes qui ont à voir avec la conception, avec l'organisation de l'enseignement dans l'Antiquité, plus particulièrement dans ces derniers siècles. Autrement dit, la difficulté que nous avons aujourd'hui à démêler les fils de ces deux types d'enseignements qui s'entrelacent sans cesse, ne tient-elle pas, avant tout, à la promiscuité, voire à l'identité qui a pu exister entre les deux types d'enseignements, en tout cas dans certains milieux? C'est la question que je voudrais aborder comme conclusion de ce cycle de cours sur l'école professionnelle. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager les rapports entre ces deux types d'enseignement, d'ailleurs, entre l'enseignement professionnel et l'école professionnelle et l'école classique ou généraliste. La première, la plus naturelle, celle qui est la nôtre aujourd'hui, est de considérer que la première prend le relais de la seconde. C'est le cadre qu'Henri René Maroux a esquissé hein, dans son histoire de l'éducation dans l'Antiquité, hein, par exemple, quand il dit « l'éducation grecque aspire à former l'homme en soi disponible ultérieurement pour n'importe quelle tâche, mais que rien ne limite par avance à une spécialisation déterminée ». Je pourrais citer d'autres exemples sous la plume de Maroux. L'enseignement généraliste, hein, vous voyez, d'après ce qu'il écrit, vient d'abord. Il a pour but d'ouvrir le champ des possibles chez l'enfant avant que celui-ci ne fasse des choix et s'engouffre dans une voie à la faveur d'une spécialisation. Cette conception d'éducation que nous partageons et que nous avons su promouvoir et même sanctuariser grâce à l'école obligatoire, ne s'est-elle pas heurtée dans l'Antiquité au mur de la réalité ? N'a-t-elle pas été mise à mal par la nécessité des jeunes gens de familles peu aisées de se spécialiser assez tôt, incapables de se payer le luxe de finir leurs études chez le sophiste, voire chez le grammairien? L'encyclios paideia, hein, la paideia encyclopédique, si je puis dire, était non seulement un idéal hors de portée pour beaucoup, mais a évolué au gré des mutations culturelles qui ont profondément affecté l'hellénisme et ont placé leurs adeptes dans la nécessité de composer avec le nouveau pouvoir, l'État romain, distillant une autre conception de la paideia et imposant des conditions socio-politiques en décalage avec les idéaux de l'hellénisme traditionnel. Aussi, à la vision selon laquelle les deux types d'enseignement se seraient succédés dans le temps, ne faut-il pas préférer une conception plus réaliste en vertu de laquelle la formation professionnelle se serait souvent substituée à l'école classique? Alors, bien des textes que nous avons examinés cette année, ainsi d'ailleurs que dans mon cours des deux années précédentes, hein, consacré aux écoles monastiques et à l'école copte, ont renvoyé des signaux contradictoires ou ambigus qui nous ont fait hésiter entre un contexte purement scolaire ou une ambiance de formation spécialisée. Nous pourrions surmonter la difficulté en mettant cela uniquement sur le compte d'une organisation de l'enseignement qui mêlait les deux types de formation. Souvenez-vous des conclusions auxquelles nous étions parvenus il y a 3 ans quand, en partant notamment dialogues, des colloquias des Herménomata, nous avions constaté que le cursus scolaire tel qu'il est décrit par les sources littéraires, se déclinant en 3 niveaux, censés se succéder sans tuilage, le niveau du grammatiste, le niveau du grammairien, le niveau du sophiste, ne correspondait pas à la situation décrite dans ces dialogues qui mettent en scène des élèves de plusieurs niveaux se retrouvant dans la même salle de cours et travaillant sous la conduite d'un maître et d'élèves plus avancés qui faisaient, on va dire, office de tuteur. J'avais suggéré à l'époque que le cursus tripartite reflétait un idéal auquel seules les cités étaient en mesure de prétendre, alors que les écoles villageoises, par manque de professeurs, devaient bien souvent pratiquer le mélange des niveaux, comme dans, jusqu'à encore peu de temps dans nos campagnes, les écoles, ou même aujourd'hui, où on parle aussi de mélange de niveaux. Bien souvent, donc, il y a dû avoir dans les écoles villageoises promiscuité, mélange entre des élèves de niveaux très différents. Alors, en vertu de ce parallèle, il serait possible que certains maîtres aient pris en charge des écoliers auxquels ils inculquaient les bases, en même temps que des élèves plus avancés auxquels ils dispensaient des formations spécialisées, comme celle de secrétaire, de copiste, de notaire. Bon. Une telle situation permettrait de rendre compte de la présence, par exemple, de certaines exhortations typiquement scolaires, comme le philoponei qu'on a vu récemment, « Applique-toi », qui est typique des documents scolaires, mais qu'on trouve aussi dans des exercices d'apprentis scribes ou notaires, ou ça pourrait rendre compte aussi du recours à des séquences apprises par cœur chez le grammatiste, comme les pangrammes, vous vous souvenez, ces expressions ou ces vers qui contiennent toutes les lettres de l'alphabet, qui sont aussi typiques de l'école, mais qu'on retrouve dans des exercices de copistes. Elle pourrait aussi expliquer certaines pièces au contenu disparate que nous avons rencontrées. Je n'en citerai que deux. Cet ostracon du monastère du Grand Feuillbamont, qui présente un texte écrit dans une majuscule penchée de bonne qualité, qui pourrait être un exercice de calligraphie, en même temps que, au-dessus, vous le voyez, une autre main a gribouillé des lettres tellement maladroites qu'elles ne peuvent être le fait que d'un élève débutant qui sait à peine écrire. Ou, deuxième exemple, cet ostracon trouvé dans la même région, Thèbes Ouest, où un apprenti copiste a tracé un alphabet en majuscule biblique, puis plusieurs mus, selon la forme que cette lettre avait dans les 3 écritures livresques en usage, une différence qu'un écolier qui apprend à écrire ne se doit pas encore d'assimiler. Tandis que si vous retournez l'ostracon, eh bien, on découvre un autre alphabet dont les lettres, écrites dans tous les sens, sont d'une inexpérience telle qu'elle pourrait avoir été tracée par un élève qui vient d'entrer en école primaire. Alors, il se trouve que nous connaissons l'occupant de la tombe où cet ostracon a été retrouvé. Il s'agit de la TT-29, la tombe d'Aménémopée, plus exactement, l'occupant, la tombe est celle d'Aménémopée. Nous connaissons très bien le nom de son occupant à l'époque tardive. Il s'agit du moine Franguet, qui, en plus de ses occupations de copiste et de ses activités de tissage, a appris à lire et à écrire à certains jeunes. Tandis qu'il a formé d'autres jeunes gens à l'écriture calligraphique. Alors, l'exemple de Franguet, hein, qui, dans la tombe qui lui servait d'ermitage, vous avez à l'écran, a enseigné à des jeunes de divers niveaux, partageant à l'occasion certains ostracas, malgré la nature très différente de l'enseignement qu'il recevait, pourrait nous inciter à justifier les autres pièces présentant aussi des écritures de niveaux différents par un mélange d'élèves, d'âge, de compétences et de vocations différentes, aboutissant à une documentation bigarrée où les exercices d'écoliers côtoient des exercices d'apprentis copistes ou d'apprentis scribes. Mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de gauchir la réalité en justifiant l'hétérogénéité de notre documentation par l'hétérogénéité du profil des élèves? Est-il légitime de parler d'hétérogénéité du profil comme s'il y avait d'un côté des élèves normaux et de l'autre des élèves spécialisés que des contingences purement logistiques auraient fait se coudoyer dans la même classe? Ne devons-nous pas envisager la possibilité qu'il n'y ait eu qu'une filière assurant à la fois la formation classique de base, apprendre à lire et à écrire, à maîtriser la grammaire et le lexique de la langue grecque, et une formation professionnalisante, apprentissage des écritures professionnelles, des connaissances nécessaires à la gestion et au notariat. La documentation touchant plus particulièrement à l'enseignement et à la copie des livres inciterait à répondre par l'affirmatif. Mais nous avons vu que celle-ci était issue des monastères, qui ont pu constituer un milieu à part, ayant intérêt à combiner l'enseignement des grammatins, hein, savoir lire et écrire, et des types canoniques de la librairie de façon à inculquer les premiers en utilisant les seconds. On brûlait ainsi les étapes en fusionnant enseignement primaire et formation professionnelle. Voilà qui était d'autant plus adapté au contexte monastique que les bénéficiaires de cet enseignement n'étaient pas nécessairement des enfants, mais aussi des adolescents ou des adultes dont la maturité permettait d'avoir recours à des méthodes plus expéditives et qui n'avaient pas besoin de passer par les fourches codines de l'enseignement secondaire, hein, celui du grammaticos avec l'étude laborieuse des auteurs profanes, désormais inutile. Mais même aux enfants, l'environnement monastique offrait la possibilité d'une formation plus intensive, protégée des contingences mondaine, c'est-à-dire par exemple disponibilité réduite des maîtres, nécessité d'aider les parents dans leur travail aux dépens de l'école, et rendant ainsi possible l'intégration des deux types d'enseignement en un seul cursus, autant qu'on peut en juger d'après une des règles de l'ascéticone de Basile. Hein, vous l'avez à l'écran, étant donné que l'apprentissage de certaines compétences, technaï, hein, on retrouve ce terme que j'ai longtemps commenté au début de cette année. Étant donné que l'apprentissage de certaines technaï doit commencer dès l'enfance, dès qu'un enfant semble apte à apprendre, nous ne lui interdisons pas de passer ses journées avec les maîtres qui les enseignent. Les conditions offertes par les monastères permettaient donc de former plus vite et plus intensément des professionnels capables d'écrire des documents et de copier des livres. Le recours à un style calligraphique, même pour des exercices de rédaction de documents, participe de ce principe d'économie, hein, et d'efficacité. J'ai eu l'occasion de vous montrer ce type d'exercice un peu bizarre où le texte est documentaire, mais l'écriture, elle, est une écriture livresque, et qu'on s'attend à trouver non pas pour des documents, mais pour des livres. Eh bien, le recours donc à un style calligraphique pour des documents pouvait participer de ce principe d'économie, puisqu'il peut être utilisé ensuite pour copier des livres, mais aussi avec un minimum d'adaptation pour rédiger des documents coptes, pour autant que, je le répète, l'écriture documentaire copte, en privilégiant un style bilinéaire, sans ligature, est alors très proche de la calligraphie grecque. Bref, les écoles monastiques visent la rentabilité, à ce qu'on appellerait en grec la créia, l'utilité, et parviennent ainsi à se constituer à peu de frais des cohortes de professionnels de l'écrit opérationnels pour tout type d'écrit. Alors, cette conclusion me semble corroborée par de nombreux exercices que nous avons passés en revue cette année. Je voudrais m'en tenir à celui-ci, qui est un ostracon particulièrement parlant, qui illustre de façon éloquente l'intrication des enseignements généralistes et professionnels, puisqu'on y voit, outre un essai de pagination de livres, un début de lettres rédigées dans une écriture livresque qui est recopiée par quelqu'un qui en est encore à apprendre à lire et à écrire, vu son écriture hésitante. On notera que la main qui a tracé, ce que j'appellerais le modèle, a pris soin de séparer par un trait oblique chaque syllabe de ce texte. Hein. Regardez, an, dre, as, shem, pen, taf, etc. Hein, c'est, et bien, ces séparations obliques qui sont se retrouvent, sont typiques des textes scolaires et destinés à des élèves qui ne dominent pas encore l'écriture continue, la scriptio continua. L'enseignement des grammatins apparaît à travers cet ostracon comme lié à une ambiance de scriptorium. Plus révélateur encore est le seul manuel scolaire monastique copte qui nous soit parvenu, suffisamment complet pour qu'on puisse se faire une idée des méthodes pédagogiques suivies par les moines pour apprendre à lire et à écrire, et qui puisse rivaliser aussi dans le domaine du grec avec le papyrus Bourian I, presque contemporain, et grâce auquel on peut suivre aussi les étapes de l'enseignement d'un grammatiste. Eh bien, voilà le P. Bourian. Le manuscrit copte dont je vous parle, c'est le P. Kotzen, Princeton 1, dont j'ai longuement parlé l'an dernier. Eh bien, on y trouve, après le syllabaire et les listes de mots classées par nombre de syllabes, suivies du nom des lettres et avant des listes thématiques, hein, autant de parties obligées de l'enseignement d'un grammatiste, on y trouve une section qui est consacrée aux nomina sacra et aux monogrammes. En abordant très vite dans le parcours de l'élève ces deux modes d'écriture abrégés, absents des manuels grecs comme le papyrus Bourian de milieu laïque, eh bien, le papyrus Kotzen Princeton 1 cherche à familiariser ses élèves à l'écriture des manuscrits. Le contexte monastique dans lequel ce livre a été utilisé explique ce souci de proposer un enseignement primaire qui sensibilise les élèves aussi à l'univers de la copie des manuscrits dont les moines se sont fait une spécialité. Même s'il serait exagéré de dire qu'ils sont ainsi, de façon subliminale, dirigés vers la profession de copiste, il n'en reste pas moins vrai que l'enseignement de la lecture et de l'écriture qu'ils reçoivent avec ce codex, eh bien, intègre les spécificités de l'univers du livre chrétien et leur donne très tôt les codes pour s'y repérer. Mais serait-ce une particularité de la formation à la copie des livres et donc de l'enseignement monastique ? Observons-nous le même phénomène, par exemple, avec les formations des notaires ? On pourrait, a priori, en douter, ou douter qu'on ait pu former les notaires à un niveau correspondant à l'école primaire. Et pourtant, eh bien, le codex de la British Library nous prouve le contraire. Un apprenti notaire s'est exercé à copier, on l'a vu, une pétition et une série de contrats dans une écriture maladroite qui fait penser à celle des exercices scolaires de premier degré. Le nombre exorbitant de phonétismes, de fautes, de copies, dont une partie a été très laborieusement corrigée, comme vous le voyez un petit peu partout ici, montre qu'il avait une connaissance déficiente du grec et qu'il était à peine capable de recopier son modèle. On ne peut échapper à la conclusion que notre apprenti suivait une formation de notaire tout en étant au niveau des rudiments dans l'apprentissage des grammata. Si d'autres tablettes plus nombreuses témoignent que les apprentis pouvaient être plus avancés dans leurs études, eh bien ce codex montre qu'il était possible de s'engager dans ce type de formation spécialisée sans être passé par la classe d'un grammatico, c'est qu'il était possible d'apprendre le métier de notaire presque en commençant à apprendre à lire et à écrire. On ne sait toutefois pratiquement rien de l'âge des élèves dans les écoles de scribes, de leur niveau de compétence à leur admission, ni de la durée de cette formation spécialisée, écrit Raffaella Cribiore dans son livre Capital sur les papyrus scolaires. En fait, il serait plus juste de dire que la documentation dont nous disposons témoigne, comme nous venons de le voir, de situations variées en la matière, même s'il est souvent périlleux d'essayer de déterminer l'âge du scripteur à partir de la qualité de son écriture et de sa langue. Ce qui est sûr, c'est que les métiers liés à l'écrit, ceux de scribe, de copiste, de tachygraphe, ou de notaire, commençaient à s'apprendre très jeune, à un âge, semble-t-il, où d'autres fréquentent le grammaticos, voire le grammatiste. Alors, on a vu la semaine dernière que Symphronios est encore tout petit, le texte copte utilise le terme de koui ou de chem, est encore tout petit quand ses parents l'envoient faire des études de scribe tachygraphe à Antinoé. Son père et sa mère éprouvent même le besoin de l'accompagner dans cette cité, de rester quelques jours avec lui avant de le laisser aux mains du maître Sylvanos. Les sources littéraires offrent d'autres exemples. Ainsi, nous apprenons par le Synaxaire thébain que Picentios, alors à ne pas confondre avec son homonyme contemporain, le célèbre évêque de Coptos, que Picentios a été placé à 3 ans, probablement dans le dernier tiers du VIe siècle, dans le monastère dirigé par son oncle à Thoth. Son oncle, nous apprend-on, lui a pris, je cite le texte, son oncle a pris la lecture et les Écritures saintes. Il mémorisa les psaumes, les 4 évangiles, les épîtres de Paul, les épîtres catholiques, les actes des apôtres et l'Apocalypse. Il les apprit parfaitement par cœur. À l'âge de 11 ans, il apprit le métier de copiste et de relieur, ainsi que celui de fabricant d'éventails colorés, et aussi la maçonnerie et la menuiserie. Il avait pas mal de cordes à son arc. Ce Picentios finit évêque de Dermontis. Nous sommes là encore en milieu monastique, allez-vous m'objecter. Eh bien, ce n'est pas le cas de l'enseignement de tachygraphie que s'apprêtent à recevoir les enfants du neveu de Grégoire de Nazianze, que leur père envoie à Tyane à cet effet. Et nous le savons grâce à une lettre que Grégoire envoie à l'évêque de cette cité pour lui demander de veiller sur eux. Alors, l'âge des enfants, des païdès, comme dit le texte, n'est pas mentionné, mais étant donné que leur père, Nicobule, s'est marié vers 365 et que la présente lettre date de la fin de 381 ou du début de 382, eh bien, le plus âgé ne pouvait avoir plus de 15 ans, et donc ses enfants sont ont vraisemblablement l'âge des écoliers qui fréquentent le grammairien, le grammaticos, c'est-à-dire, souvenez-vous, entre 10-12 ans et 14-15 ans. Nous avons plus de précision avec l'histoire que nous conte Ruffin dans son histoire ecclésiastique au sujet du futur évêque Athanase, futur évêque d'Alexandrie, grande figure du christianisme égyptien, né vers 296 et mort en 373. L'évêque d'Alexandrie, Alexandre, se trouva un jour à regarder de loin des enfants en train de jouer, nous dit Ruffin, des enfants en train de jouer à mimer un évêque en train de baptiser des personnes. Bon. Le jeune Athanase qui jouait le rôle de l'évêque avec un tel réalisme qu'Alexandre en fut troublé et décida de s'intéresser de plus près à ce jeune garçon et à ses camarades. Alors, je vous traduis le texte, après avoir convoqué leurs parents, en prenant Dieu à témoin, il confia, on devrait comprendre quelque chose comme, plutôt il décida de confier les enfants à son église pour y être élevés. Mais peu de temps après, Athanase ayant été à l'école d'un sténographe, notarius, dont il reçut une formation complète et d'un professeur de littérature, grammaticus, nous dit le texte latin, qui lui donna ce qu'il fallait d'instruction, ses parents le rendirent immédiatement au prêtre comme un dépôt du Seigneur gardé fidèlement et, tel un autre Samuel, il fut élevé dans le temple du Seigneur. C'est ainsi qu'il fut désigné par Alexandre, alors qu'il rejoignait ses pères dans une vieillesse heureuse, pour porter l'éphod sacerdotal après lui. En effet, hein, après être devenu le secrétaire, le bras droit d'Alexandre, eh bien, Athanase lui succédera en 328 sur le trône de l'évêché d'Alexandrie. Ce passage de Rufin est doublement intéressant. On y apprend qu'Athanase s'est engagé dans l'apprentissage de la tachygraphie alors qu'il était encore enfant, premièrement. De plus, s'il faut en croire la lettre du texte, il a reçu cette formation de tachygraphie soit pendant celle du grammaticos, du grammairien. Ce qui vient confirmer que ce type d'enseignement spécialisé ne succédait pas à l'enseignement classique, mais était concomitant, voire intégré à celui-ci. Alors, dans ces conditions, est-il encore légitime de parler d'un enseignement scolaire classique d'un côté et d'un enseignement professionnel de l'autre ? Nous avions vu que le cursus tripartite de l'école classique, grammatiste, grammairien, sophiste, était une norme ou un idéal bien souvent battu en brèche du fait de contingences économiques ou sociales qui aboutissaient à des adaptations, à des amputations, à des mélanges. Il en va de même de la conception selon laquelle l'enseignement spécialisé viendrait après l'enseignement classique, au moins celui du grammatiste ou du grammairien, permettant à l'enfant de recevoir une formation généraliste de base. Si elle correspond à un idéal de la paideia grecque, on constate que dans les faits, celui-ci n'était pas toujours respecté et qu'il le fut de moins en moins à partir du 3e, 4e siècle, alors même que se déployait, se développait une culture de la technicité répondant à de nouveaux besoins et valorisant la spécialisation. Cet état de fait que révèle la documentation papyrologique, quand elle est correctement interprétée, procède de deux phénomènes. Le premier est d'ordre socio-historique. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler la monasticisation de l'enseignement. Comme nous l'avons vu il y a 2 ans, les monastères acquièrent, durant l'Antiquité tardive, un rôle de plus en plus actif et central dans l'enseignement. La nécessité de développer un enseignement prosélyte, combiné à celle de former un personnel lettré capable de gérer leurs activités économiques autant que de faire tourner les scriptoria, explique à la fois que les monastères soient devenus des lieux d'enseignement destinés à leurs novices ou leurs moines, tout autant qu'à la population laïque, mais aussi qu'ils aient promu un enseignement correspondant à leurs besoins. On notera que le développement de cet enseignement correspond aussi à la place de plus en plus centrale des clercs et des moines dans les métiers spécialisés, comme ceux de copiste, évidemment, mais aussi de scribe ou de notaire. Le second phénomène est d'ordre culturel et linguistique. On assiste à ce que j'appellerais une pragmatisation de l'enseignement qui aboutit à une forme de professionnalisation de son contenu. Nous avons vu ces dernières années la place de plus en plus forte des modèles de lettres, des modèles épistolaires dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je vous remontre l'ostracode de Drabuonaga, qui en est un exemple doublement significatif, puisque c'est à partir d'une lettre qu'un élève s'est exercé à l'écriture, mais aussi à la lecture, eu égard aux séparations syllabiques. En substituant au texte proprement littéraire, de mise dans l'enseignement classique grec des textes de la pratique documentaire, des lettres, par exemple, ou des actes juridiques, eh bien, on faisait ainsi d'une pierre deux coups. On apprend à l'élève à lire et à écrire, on lui apprend les grammatas, comme le ferait un grammatiste grec avec des extraits d'Homère ou de Ménandre, et on lui inculque les bases de la langue grecque ou copte, comme le ferait un grammaticos, un grammairien, avec des extraits des mêmes auteurs, étudiés cette fois-ci pour leur contenu, et on l'initie aussi à la pratique professionnelle de l'écrit, en le formant dès son jeune âge à la rédaction des principaux genres documentaires. Alors bien sûr, cette substitution des textes documentaires aux textes littéraires n'est pas totale, puisqu'à côté d'extraits de lettres ou de documents, on fait aussi copier aux élèves des extraits de la Bible, principalement des psaumes. Hein. Souvenez-vous de ce papyrus de Balaïsa, qui est un bel exemple de cette concomitance des deux, puisqu'on a à la fois des documents, mais aussi des psaumes. Mais le recours à des modèles bibliques participe lui aussi à ce phénomène de pragmatisation de l'enseignement, puisque le texte biblique, loin d'avoir le même statut qu'une œuvre d'Homère ou d'Euripide, n'était pas considéré comme de la littérature hors sol, dirais-je, mais comme un texte à fréquenter au quotidien, à savoir manier dans le cadre de la liturgie, a fortiori si l'élève, évidemment, se destine à une vie de clerc ou de moine. Cette pragmatisation de l'enseignement correspond donc à un changement de paradigme qui, à partir du IVe siècle, mit la paideia grecque traditionnelle de plus en plus en décalage par rapport à la culture ambiante et nécessita des adaptations dans le choix des textes de référence qui fussent de plus en plus en phase avec celle-ci. Comme nous l'avons vu les années précédentes, l'enseignement séculier s'adapta en choisissant dans le patrimoine profane des œuvres à visée avant tout morale, Ménandre, et en réduisant certains auteurs à une formation de modèle rhétorique, hein, Homère devient un rhéteur par excellence, les vidant ainsi de leur dimension esthétique. Quant à l'enseignement monastique, eh bien, il préféra la plupart du temps renoncer à ses auteurs au profit de la Bible et de textes documentaires qui faisaient office de modèles éthiques et de modèles rédactionnels. En épargnant aux élèves de plancher une partie de leur scolarité sur des textes désormais éloignés de leur univers culturel, eh bien, cette nouvelle forme d'enseignement hâta le processus de professionnalisation et mit les enfants très tôt en contact avec des formes textuelles qu'ils auraient à manier plus tard, soit comme copistes, soit comme secrétaires, intendants, économes ou comme notaires. Le phénomène est renforcé par les conditions linguistiques de l'Égypte tardive. Hein. Les textes littéraires classiques de la paideia grecque n'étaient pas seulement culturellement éloignés de ces nouvelles générations d'élèves, mais aussi linguistiquement. Les élèves étaient des Égyptiens, plus ou moins bien hellénisés. Dans une société où le substrat était l'égyptien, mais où la langue de référence administrative et ecclésiastique continuait à être le grec, eh bien, l'école pouvait de moins en moins se payer le luxe de former ses élèves aux beautés gratuites, ou dirais-je inutiles, de la littérature grecque. Elle devait non seulement leur inculquer une bonne connaissance du copte biblique, mais aussi les rendre opérationnels en grec en les préparant aux écrits auxquels ils seraient confrontés, les lettres, les reçus d'impôts, les contrats, les plaintes à l'administration, etc. Autant de documents qui ne pouvaient alors être écrits qu'en grec. Les exercices d'enseignement professionnel que nous avons étudiés cette année illustrent parfaitement cette double nécessité. La tablette du Caire, que je vous ai présentée il y a quelques minutes, où un élève a écrit un acte de permutation de propriété en grec, comporte au verso, et je ne vous l'avais pas encore dit, j'en garde la surprise pour la fin, comporte sur son verso l'intégralité du psaume 49 avec son titre, le titre du psaume 50 et le début du psaume 3 en copte, très probablement écrit par la même main que le recto. De même, la tablette de Fribourg que je vous ai montrée aussi il y a quelques minutes, où un étudiant a écrit une reconnaissance de dette et s'est exercé à la rédaction d'invocations chrétiennes qui débute les actes juridiques, contient elle aussi sur son autre face, de la même main, le texte copte intégral des psaumes 112 et 113. Ces exemples, en plus du fait qu'ils montrent la prégnance du bilinguisme dans l'enseignement, confirment l'existence d'un cursus combinant l'apprentissage de savoir-faire spécialisés comme le notariat et à l'étude du texte biblique poursuivant l'expérience que Protogène avait lancée au IVe siècle avec son école de tachygraphie où l'on étudiait la Bible et notamment les psaumes. Au terme de ce panorama consacré aux formations spécialisées dans le domaine de l'écrit, se trouvent confirmés nos doutes sur la légitimité de l'existence d'un enseignement professionnel qui s'opposerait et succéderait à un enseignement généraliste proprement scolaire. Nous avons vu que la réalité était beaucoup plus complexe, beaucoup plus fluctuante, à l'image d'ailleurs de l'école en général. Si la tendance à la spécialisation est une constante durant l'Antiquité tardive, pour des raisons politico-économiques que j'ai essayé de dégager, l'intégration de l'enseignement spécialisé à l'enseignement généraliste a varié selon les niveaux. Les écoles séculières et hellénophones, à l'instar de celles tenues par le maître du papyrus Bourian I, ont tenté de maintenir la tradition d'une paideia reposant sur une culture générale et désintéressée, quitte à la faire évoluer par le choix de ses références littéraires avec des textes de plus en plus gnomologiques, de nature de plus en plus éthique, comme les sentences de Ménandre. Les écoles implantées en milieu monastique, elles, ont développé une pédagogie intégrant à un apprentissage de la lecture et de l'écriture des formes d'instruction technique, de façon à obtenir rapidement des personnes alphabétisées en copte et en grec, capable d'être opérationnel dans une société où l'on ne peut se dispenser du grec et des personnes susceptibles, cas échéant, de s'intégrer à la communauté monastique en y pratiquant la copie de livres, en accomplissant des tâches de gestion, tout en ayant un minimum de formation scripturaire et liturgique. L'école, vous le voyez, est sans nul doute un des meilleurs miroirs des évolutions politiques, des évolutions culturelles, des évolutions religieuses de la société que nous avons essayé de traquer durant ce cycle intitulé « Le calame et la croix » ces dernières années. Scruter à travers la documentation papyrologique, à travers les papyrus qu'elle a produits, eh bien, elle n'a cessé de nous renvoyer une image bien plus complexe qu'on ne pouvait le croire de cette société profondément bilingue et biculturelle, pétrie de contradictions, parcourue de tendances hétérogènes, voire antagonistes, animée d'idéaux multiples et composites, qui rendent son étude à la fois délicate et passionnante, nous obligeant à abandonner en chemin bien des certitudes erronées et simplificatrices. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à l'année prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.